France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Charles Dumont, qui ne regrette rien de sa fabuleuse vie d'artiste, passée à chanter et à faire chanter les autres dans le meilleur sens du terme. Il évoquera son enfance à Cahors, sa rencontre avec Piaf, ses débuts de soliste, mais aussi son nouveau disque et son nouveau spectacle. Charles Dumont à ce micro dans quelques minutes. Voilà qui me rendrait presque aussi joyeux que Fred et Adèle Astaire dans Hoops. The Bandwagon, c'était le titre de cette revue new-yorkaise de 1931, musique d'Arthur Schwartz, livrée de George S. Kaufman avec donc Adèle et Fred Astaire et l'excellent orchestre de Leo Reisman. Et puis vous le savez, ça approche, j'ai un peu le trac maintenant parce que dans quelques jours, c'est le grand soir, les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît, je vous attends, je sais que vous êtes déjà très nombreux, mardi à partir de 20h au grand studio 104 de Radio France avec tous mes invités, Marcel Hamon, Jean-Claude Petit, Franck Le Guérinel, Hervé Villard, Marie-Thérèse Orin, Marie-Paul Bell, l'Orchestre des Frivolités Parisiennes et beaucoup d'autres encore. On a gardé quelques places pour les retardataires, vous pouvez encore les trouver sur le site maisondelaradio.fr. Et donc je suis très heureux de vous retrouver maintenant dans 3 jours pour cette belle soirée d'anniversaire. Tourbillon, un galop de Josef Lanner interprété par l'Orchestre Philharmonique de Chambre tchèque sous la direction de John Georgiadis.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais vous le savez, nous avons rendez-vous maintenant avec un très grand monsieur de la chanson. Vous connaissez tous Mon Dieu, Les Amants, Non, je ne regrette rien, Ta cigarette après l'amour et beaucoup d'autres chansons encore qu'il a écrites et parfois interprétées lui-même. Il sort encore aujourd'hui un nouvel album et puis il nous propose dans quelques jours un spectacle sur son ami Édith Piaf. J'ai la joie ce matin d'accueillir Charles Dumont.
Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson, c'est trois fois rien. Une chanson, c'est du champagne, un frisson. Une chanson, une chanson. À quoi ça sert une chanson? Ça dure à peine une saison. Une chanson, ce n'est qu'un point dans l'infini, un petit bout de mélodie que l'on invente sur un piano et qu'on habille avec des mots. C'est un prénom sur une page, un jour, un mois, juste une image. Et dans le fleuve d'aujourd'hui, c'est sûrement toute ma vie. Une chanson, c'est trois fois rien. Une chanson, c'est du champagne, un frisson. Une chanson, une chanson, c'est peu de choses une chanson. Mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons. Une chanson, c'est trois fois rien une chanson. C'est du champagne en frisson. Une chanson, une chanson, c'est peu de choses une chanson. Mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons.
Bonjour Charles Dumont.
Bonjour Benoît.
Une chanson parmi combien de chansons que vous avez écrites, composées, interprétées?
Les chansons, il ne faut pas les compter.
Ah bon?
Parce qu'elles ont toutes des dates qui vous ramènent à la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Et il y en a certaines qui sont flatteuses et il y en a celles qui vous accusent. Alors une chanson, c'est une qui me flatte, car en fait cette chanson, ça a été une merveille. Je peux dire que c'est des chansons, en tant qu'interprète, c'est celle qui m'a boosté, comme on dirait.
À ce point-là, ah oui.
Oui, ah oui, aujourd'hui,
en 1977,
pour faire de l'anglicisme, j'ai été boosté.
Vous aviez déjà une importante carrière.
De compositeur, oui.
Et même d'interprète, quoi.
Oui, oui. Oui, mais c'était encore l'époque où j'hésitais encore. Je chantais par la volonté d'Edith, comme chacun le sait, ou comme je l'ai dit souvent, en tout cas. Mais j'étais encore à une époque. Et puis, cette chanson est sortie. Ça avait été un grand succès. Ça a été mon premier disque d'or.
Il faut préciser d'ailleurs que c'était notre ami Jean-Claude Petit qui a fait l'orchestration.
Ah mais je ne dirai jamais assez à Jean-Claude Petit le nombre de chansons. Je suis resté dans la marque de disque de l'époque, je suis resté 20 ans.
Ah oui, voilà.
Et au départ, il ne voulait pas me prendre. Et après, ils m'ont gardé 20 ans.
Vous ne voulez pas vous prendre,
bon, sur les 20 ans, j'ai bien fait 10 ans d'enregistrement avec Jean-Claude. Et toujours avec un émerveillement renouvelé chaque fois. C'est un grand, très, très, très grand musicien, arrangeur et orchestrateur. C'est un cadeau que d'avoir la chance d'avoir travaillé avec lui.
Je pense que ça va lui faire plaisir.
Non, c'est la vérité. J'en ai connu beaucoup d'autres qui avaient du talent.
Du talent, bien sûr. Vous
êtes après, le talent, c'est à l'homme de ce que ça vous apporte, quoi. Et ça m'a apporté beaucoup.
Ben en tout cas, je tiens à vous dire, Charles Dumont, d'abord, je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas venu à ce micro.
Je suis très heureux d'être là.
D'accueillir comme vous un très grand personnage de la chanson française, c'est quand même toujours une joie. Mais en plus de ça, je veux dire, j'avais eu l'impression, alors j'ai dû me tromper, que l'an dernier, vous aviez fait votre concert d'adieu, ou votre dernier concert.
Oui, et alors ça, c'est le fameux quiproquo. J'étais autour de mon piano avec deux amis. Il y avait Deb, il y avait un garçon, Thomas Boissy, qui est un chanteur, un auteur de très, très grand talent, un jeune, ouais. Qui est aussi un personnage très, très extraordinaire. Et il y avait mon producteur aussi de spectacle. Ils étaient là, et j'avais dû passer une mauvaise nuit, je leur dis, je vais faire mes adieux. Je suis fatigué, j'en ai marre, je fais mes adieux.
Ouais.
Et Thomas Boissy me dit, ah non, écoutez Charles, pas vous, vous n'allez pas faire le coup, allez, je pars, je reviens, puis je pars.
La grande tournée d'adieu qui ne finit jamais.
Voilà, il dit, non, écoutez, si vous êtes fatigué, dites au revoir, ça vous ouvre toutes les portes. Si vous avez envie de revenir, vous revenez. Et si vous n'avez pas envie de revenir, ben vous avez dit au revoir, vous êtes poli quand même. Il m'a fait une magnifique chanson que j'ai chantée, qui dit au revoir. Eh bien, croyez-le, la majorité des gens, ça va être dû probablement à la simulation du personnage, de la durée du personnage qui chante, car tout le monde a entendu adieu.
Adieu.
Alors, voilà, je suis très heureux chez vous, Benoît, de pouvoir dire non, c'était pas un adieu, c'était un au revoir. Et la preuve, c'est que j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail, encore là, à la fin de la semaine, je fais un immense gala.
Sur Édith Piaf, on va en parler.
Au pavillon Balta. Et c'est une grande aventure.
Voilà, il y a ça, il y a un disque qui va sortir, il y a des concerts en France, un peu partout, à la fin de l'année. Donc effectivement, j'ai retrouvé, c'était à Bobino l'an dernier, je suis venu vous dire au revoir.
Voilà. Et que ceux qui pensaient que c'était adieu, mais tant pis, ils se sont trompés. Mais alors que ceux qui avaient espéré que je me trompe, non, c'était bien au revoir. Je garde un jour, peut-être prochain... La chanson de rêve pour dire adieu. Mais pour l'instant, c'est pas un adieu.
On n'en est pas là. Et si vous voulez bien, Charles Dumont, on va profiter de votre présence ici pour faire des petits retours en arrière dans quelques moments de votre vie.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure et je m'en vais. Au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte. Rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais
au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte.
Spécial dédicace à mon ami Sampé qui me parle toujours de ce solo d'Aimé Barelli en 1941. Charles Dumont.
Bon, ce sont des chansons qui honorent la chanson française.
Eh oui,
Voilà, des chansons comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut admirer le plus. Le poète, n'en parlons pas.
Oui, Verlaine, c'est pas mal.
C'est quand même très très merveilleux. L'orchestre, Aimé Barelli. Moi, j'ai joué avec Aimé Barelli.
Ah oui?
Ah oui, j'avais 16 ans.
Ah bon?
Je commençais à faire de la trompette. J'étais à Monte-Carlo. Il était le pape de Monte-Carlo.
Ouais.
L'orchestre de Monte-Carlo. Et il m'avait accepté de figurer.
C'est vrai?
Car j'ai figuré. J'ai fait semblant de jouer, mais j'ai pas joué beaucoup dans son orchestre. C'était un merveilleux trompettiste. C'était un artiste formidable. Il était marié avec une chanteuse de grande qualité, Lucienne Delisle, qui a été une interprète qui m'a chanté plusieurs chansons. Moi, quand j'entends des chansons comme ça, ça me fait un bien immense, parce qu'on se rend compte que ça dure, qu'on les entend toujours avec plaisir, et que ça traverse le temps, et ça a toujours 20 ans. C'est formidable.
Et quand vous étiez enfant, donc dans le sud-ouest, à Cahors, je crois, Charles Dumont, on écoutait la radio, on écoutait des disques chez vos parents, Traîné, par exemple, vous l'avez entendu très vite.
Oui, j'étais un fan. À 13 ans, je chantais tout Traîné par cœur.
Ah bon?
Ça a été mon professeur.
Ah oui?
Ah oui, 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 oui. C'était de loin. Alors, il y avait un confrère qui était pas mal non plus, qui s'appelait Jean Sablon.
Eh ben oui.
Donc, moi, Traîné Sablon, c'est mes professeurs.
Et votre père, chaudronnier, lui, oui. il écoutait de la musique?
Il aimait beaucoup la musique.
Ah oui?
Il aimait beaucoup la musique. Il avait été, je crois, quand il était jeune, trompettiste dans l'armée.
Ouais.
Et il aimait la musique vraiment d'une façon naturelle. C'est-à-dire qu'il se prenait pas pour un musicologue, il ne flirtait pas tous les jours avec Wagner, ni avec ses contemporains, mais il avait grand plaisir à ce que je m'intéresse à la musique.
C'est ça.
Et il m'a beaucoup, beaucoup, énormément encouragé. C'était pas la mode à l'époque.
Hein. Et non. En général, c'était pas ton bac d'abord.
Ah, mais moi, quand j'ai commencé à chanter, on me disait, qu'est-ce que vous faites? Je disais, ben je fais des chansons. Non, qu'est-ce que vous faites comme métier? On n'était pas chanteur, il fallait faire un métier, parce que chanter, c'était pas un métier, faire des chansons, c'était pas un métier.
Mais votre père, vous, il vous prenait au sérieux.
Et mon père me prenait au sérieux, il m'a aidé financièrement, moralement, parce que ça a pas été facile. Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile, mais à cette époque-là, c'était pas facile non plus. Il a fallu longtemps, longtemps. Du temps avant que les poètes aient disparu.
Alors, à quel moment est-ce que vous avez vraiment décidé d'en faire votre métier et puis sans doute fait ce qu'on doit faire dans ce cas-là en France, c'est-à-dire monter à Paris?
Mais vous savez, ce qui m'a été permis de constater dans ma longue existence déjà, c'est que tout se fait par le destin, par les rencontres.
Ouais.
La décision qu'on prend, elle est plus fournie par les éléments que par la volonté.
Ouais.
Souvent.
Ouais.
Et la raison pour laquelle je me suis décidé à vraiment en faire mon métier, je le dois à un grand éditeur qui malheureusement ont disparu, c'était les éditions Breton.
Raoul Breton,
qui était les éditeurs de Charles Traîné.
Oui.
À ce moment-là, je me suis marié, j'avais 20 ans.
Ouais.
Et à 21 ans, j'étais père de famille.
Ah oui, il fallait assumer.
Il fallait assumer. Et donc, je m'étais fait engager dans une usine d'automobile. Parce qu'il fallait gagner sa vie. Bon, et un jour, j'ai fait une chanson avec un jeune homme, comme moi, qui était non plus pas un vrai professionnel, moi non plus, bien sûr. J'ai fait une chanson. Et lui, il connaissait quelqu'un qui connaissait. Il connaissait quelqu'un chez Raoul Breton.
Ah oui.
On est allé voir la marquise, car Madame Breton l'appelait la marquise. Moi, j'étais mort de peur, je n'osais même pas dire mon nom. Lui, il avait un certain culot, il était un peu plus âgé que moi. Et on lui montre cette chanson qui s'appelait « Et pourtant », bref. Et Madame Breton écoute ça avec un certain intérêt. Elle était très professionnelle, très gentille. Elle dit, ah, mais elle est bien votre petite chanson là, elle me plaît bien. Elle dit, mais écoutez, si vous voulez, oui, je veux l'apprendre. Lui, il dit, oui, mais on voudrait une petite avance. Et Madame Breton, qui n'était pas réputée pour sa générosité, oui. dit, bah oui, si vous voulez, très bien, mais écoutez, je vous donnerai, alors je ne veux pas vous donner la somme, parce que c'était assez petit.
Modique,
oui. Et avec un culot qui n'appartenait, son nom de famille s'appelait Robin, c'était Robin des Bois pour moi.
Ouais.
Avec le culot de Robin des Bois, il lui dit, ah mais madame, c'est pas suffisant, non, on en voulait plus, il fallait un culot monstre, ouais. Personne ne nous avait jamais édité. Hein. Et Madame Breton dit, mais vous avez un sacré culot, jeune homme, alors vous voulez combien? Alors il dit, je sais pas. Alors il dit, écoutez, je vous donne... Elle dit un chiffre. Elle dit, mais c'est d'accord. Et là, ce jour-là, je suis rentré à la maison. Ma femme travaillait. Moi aussi. Mais enfin, voilà, j'étais à la maison quand ma femme est rentrée. Et j'ai dit, j'ai démissionné de ces par élevasseur. J'ai démissionné. Et ma femme m'a dit, bon, et pourquoi? J'ai dit, parce que... On a vendu aujourd'hui une chanson à un éditeur. L'argent qu'il m'a donné, c'est plus important qu'un mois.
Et voilà.
Alors, je continuerai à faire des chansons.
Et c'est comme ça.
Et j'ai eu la chance d'avoir une femme qui a accepté que j'abandonne l'industrie.
C'est très joli.
C'est le hasard. C'est le destin.
Un joli hasard. Eh ben, on va justement retrouver alors une de vos chansons de vos débuts, c'est-à-dire, si j'ose dire, avant Piaf. Et là, il s'agit du grand Luis Mariano qui vous chante une chanson. On va en reparler après, intitulée El Guerriero.
Sont rentrés et l'a retrouvé, lui son beau guerriero, ses habits déchirés, ses grands yeux fatigués. Il marchait le premier, lui son beau guerriero. Comme un archange, il était là dans la lumière. Son regard a pris le sien et dans la foule, elle était fière. Comme folle, elle courait, elle appelait la terre entière. Et riait en sanglotant tout à la fois entre ses bras. Elle a dit, mon amour, pour te voir de retour, j'ai prié tant de jours que Dieu a compris mes larmes. Le Mexique en entier peut chanter et danser. Moi, je peux t'embrasser. Mes baisers sont ma seule arme. Et le soir, sous les lampions du premier bal de la victoire, son cœur, il a chanté sous sa guitare son histoire. Et ses yeux ont oublié les ciels sans les ciels barbares, pour ne plus jamais penser qu'aux lendemains ensoleillés. Un beau jour s'élève, les fusils sont rangés, et l'a retrouvé, lui son beau guerrillero, lui son soleil, son credo, lui son beau guerrillero.
Voilà, alors là on fait un petit saut dans le temps, Charles Dumont, on est en 1958, vous n'avez pas encore 30 ans, mais vous êtes déjà chanté par pas mal de vedettes de l'époque, et notamment Luis Mariano, cette chanson, qu'est-ce qu'on peut en dire?
D'abord c'était la mode de Che Guevara.
Ah oui.
Bon, mais ça, toute plaisanterie mise à part, vous savez, c'était une époque assez difficile encore pour moi, parce que Il y avait des gens qui voulaient bien me chanter des chansons, mais il y en avait beaucoup aussi qui me recevaient mal, ou pas très bien, quoi.
Ouais.
Des sortes de chanteurs, quand on leur apportait les chansons, ils n'avaient qu'une envie, c'était de vous dire qu'elles n'étaient pas pour eux.
Ah oui. C'est pareil chez les éditeurs. Le manuscrit est très bien, mais il n'entre pas dans le cadre.
Et là, je suis arrivé chez Louise Mariano, dans sa maison en banlieue. Une très belle banlieue, une très belle maison. Il nous a reçus comme des amis.
Ah, merveilleux.
Comme des amis. Une gentillesse exquise, d'une politesse qu'on voit rarement. Et j'étais très, très, très heureux de le rencontrer. C'était un grand bonhomme.
Ah oui.
Et j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois de lui avec des professionnels, des chanteurs lyriques.
Ouais.
Et plus d'un m'ont manifesté la voix de Luis Mariano. Un grand ténor, dont le nom m'échappe maintenant, enfin un des grands, m'a dit, mais si Mariano avait voulu faire du lyrique, il aurait été un grand ténor.
Ouais.
Parce qu'il disait, il avait écouté El Guerrero, il disait, vous avez remarqué la voix chantée dans l'aigu qu'il a. Il était admirateur de la voix de Mariano. Donc c'était les gens forts pour garçons, très gentils, très bien élevés et un grand chanteur.
Parmi les autres vedettes de l'époque qui vous ont chanté avant Édith Piaf, on peut citer Gloria Lasso, Dalida...
Oui, qui était aussi très bien.
Oui, ils étaient gentils aussi, tout cela.
Oui, non.
Tino Rossi, même.
Gloria Lasso, c'était amusant parce qu'elle avait une fille, et sa fille faisait des dessins sur des cailloux, comme beaucoup d'enfants.
D'enfants, oui.
Et on m'avait dit, tu vas voir Gloria Lasso, surtout t'achètes un caillou.
Et voilà, vous aviez su comment la séduire.
Donc j'ai acheté le caillou, elle a pris ma chanson.
Une question que je me posais, Charles Dumont, parce que vous nous avez dit que vous avez fait figurer le trompettiste chez Aimé Barelli, mais en fait la musique, vous l'avez étudiée à un moment, sérieusement, vous êtes allé un peu au conservatoire, etc.
Ah oui, je suis allé au conservatoire de Toulouse, trois ans.
Trois ans, voilà.
Trois ans, j'ai quitté Toulouse pour venir à Paris, pour épater Paris, à la trompette.
Mais je veux dire, vous aviez fait vos classes d'harmonie, d'écriture...
Non, ça, j'ai fait ça à Paris, après, avec un professeur du conservatoire qui s'appelait Georges Hugon.
Oui.
Alors, j'ai fait aussi...
Georges Hugon,
oui.
Grand musicien, bien sûr.
Il a été mon professeur d'harmonie, et c'est un monsieur extraordinaire aussi. Je pourrais parler de lui pendant des heures. Bref, c'est un grand monsieur. Et là, oui, j'ai beaucoup travaillé après. J'ai beaucoup, beaucoup étudié, Bon, mais j'ai eu des accidents qui m'ont empêché de collectionner les diplômes dans mes débuts de vie. Je les ai remplacés par des décorations dans ma vie d'adulte.
Voilà, en tout cas, voilà. Vous vous êtes fait peu à peu quand même un nom de compositeur. Je sais pas si vous pensiez à être chanteur à l'époque, peut-être pas du tout.
Parce que pendant tout ce temps-là, les droits d'auteur, contrairement à ce qu'on dit, ça rapporte pas toujours des millions. Même quand elles sont chantées par de grands chanteurs, c'est souvent des petits revenus quand même. Et donc, j'ai eu un fils, j'ai eu deux fils, il fallait gagner aussi de l'argent. Et donc, je faisais un peu du piano à droite, un peu du ceci.
Ah oui, c'est ça.
Je travaillais, quoi. Oui, je travaillais.
Voilà. Vous faisiez tous les métiers de la musique, finalement.
Tous les métiers de la musique. Ouais. Je faisais même des partitions pour d'autres compositeurs.
Mais oui. Alors, je me posais aussi la question, celui qui est associé, on en avait déjà parlé dans cette émission, évidemment, à votre rencontre avec Piaf, c'est Michel Vauquer. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Comment est-ce que vous êtes devenu ami? Comment est-ce que vous avez fait des chansons
ensemble? Alors, je dois beaucoup, tout le monde sait que je dois beaucoup aux dames, aux femmes en général, qui ont toujours été des protectrices pour moi. J'ai eu la chance extraordinaire d'être aidé beaucoup par le sexe féminin. Ça, je dois aussi bien le reconnaître. J'ai rencontré des hommes merveilleux, attention. Mais c'est vrai que j'ai souvent eu des coups de main. Et là, ça a commencé par Cora Vauquer.
Bien sûr.
J'avais rencontré Cora Vauquer avec l'espoir de lui donner un jour une chanson. Elle était adorable. C'était une diseuse divine. On n'en fait plus des comme ça, je veux dire. C'était Barbara avant Barbara. C'était un être exquis. Et c'était l'épouse de Michel Vauquer.
Elle était son épouse.
C'était son épouse. Et un jour, elle m'a dit, si vous voulez, je vais vous présenter mon mari. Que j'ai rencontré, qui était un homme de grande culture, traditionnellement d'auteurs célèbres. Son père était déjà un auteur très très connu, et lui, il était aussi un grand auteur. J'avais de tout petits souliers quand je l'ai rencontré. Et il m'a adopté grâce à sa femme, et il a été le premier grand virage de ma vie.
Voilà, on sait alors qu'ensuite il vous a emmené chez Piaf, il a même insisté après plusieurs refus pour qu'elle finisse par vous recevoir à nouveau et tout d'un coup se mettre à aimer vos chansons qu'elle avait d'abord rejetées. On va peut-être pas aujourd'hui revenir sur toute cette histoire, mais moi j'ai envie de me faire plaisir parce que souvent je me dis, bon, on va pas passer ça, c'est un tube, tout le monde le connaît, mais quand même, non, je ne regrette rien, moi je trouve que c'est quand même une très belle chanson, alors j'ai envie de l'écouter en vrai. Ça vous ennuie pas ?
Mais écoutez, je ne vais pas me plaindre d'avoir eu la chance de faire une chanson qui est devenue un standard.
Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Édith Piaf en 1961, chef-d'œuvre évidemment de la chanson, signé de vous, Charles Dumont.
Michel Vauquer.
Et Michel Vauquer pour les paroles, bien sûr. Vous vous rappelez quand vous l'avez écrite à votre piano ? Je ne sais pas si vous écrivez au piano, mais...
Oui, bien sûr. Mais c'est surtout que ça... Après, vous savez, j'ai fait 30 chansons pour elle. J'ai connu Édith 3 ans.
Oui.
Je l'ai connu en 60.
Les 3 dernières années de sa vie.
Les 3 dernières années de sa vie. Et dans ces 3 ans, j'ai écrit 32 chansons.
Oui. Quand vous avez écrit « Non, je ne regrette rien », vous vous êtes dit « Tiens, là, je tiens un chef-d'œuvre ou je tiens un succès ».
Non, j'y croyais pas.
Ah bon ?
J'y croyais pas parce que j'avais tellement eu de mal à ce qu'elle me reçoive. Une fois, elle nous avait reçu avec Madame Salabert qui m'avait amené chez elle.
Ah oui, Mika Salabert.
Oui, qui était une femme extraordinaire.
Oui.
Et Piaf a écouté la chanson et elle a dit « Elle est tellement pour moi que je la chanterai pas ».
Ah oui, évidemment, c'est embêtant.
C'est pour vous dire que j'étais pas son genre, quoi. Pas du tout. Et bon, et après, elle a chanté 32.
Ici, on entendait aussi, c'est bien quand même, l'orchestre de Robert Chauvigny.
Ah, mais alors,
qui était son chef d'orchestre de l'époque. Hein.
Mais je pense qu'il a été, dans la carrière d'Edith, un des grands supports.
Ouais.
Vous savez, un chanteur, il a besoin aussi de rencontrer parfois un grand musicien.
Ouais.
Et je vous disais tout à l'heure tout ce que je dois à Jean-Claude Petit. Je crois qu'Edith, elle le savait. Et puis elle l'a dit souvent dans ses récitals, dans ses interviews. Elle savait ce qu'elle devait à Robert Chauvigny, qui était lui aussi... un orchestrateur exceptionnel.
Ouais.
Exceptionnel. Moi, je lui dois, c'est lui qui a fait toutes les chansons que j'ai chantées, sauf une, où c'était Jean Lescia qui avait fait l'orchestration, qui était un tout jeune compositeur à l'époque. Mais tout le répertoire de Piaf que j'ai écrit, c'est Robert Chauvigny qui l'a écrit. Et je lui dois beaucoup, beaucoup aussi. Quand vous tombez sur des musiciens de cette qualité, c'est un enrichissement.
Bien
vous savez, vous faites un joli corps et il l'habille.
Si vous deviez citer les deux ou trois chansons de Piaf dont vous êtes le plus fier du monde, vous citeriez lesquelles?
C'est Mon Dieu.
Mon Dieu, bien sûr.
Mon Dieu, Je ne regrette rien. Puis la dernière chanson que j'ai écrite pour elle, qui s'appelle La belle histoire d'amour.
Ouais.
C'était un soir, on discutait sur son canapé, il était très tard, et elle m'a donné le texte, et c'est le dernier texte qu'elle a écrit pour Marcel Cerdan. Et ce texte-là, chaque fois que je l'entends, d'abord il faut voir comment elle l'a chanté. Ça s'appelle La belle histoire d'amour. Et d'ailleurs, le spectacle qu'on va
alors
jouer...
Alors justement, ça tombe bien.
Le spectacle
ça
qu'on va jouer, qui raconte la vie de Piaf, en fait ce spectacle raconte la vie d'Edith.
Oui.
Avec des flashbacks, bon. Et il s'appelait La belle histoire d'amour. Et au départ, il s'appelait Piaf tout court.
Ouais.
Et moi, j'ai demandé à ce que ça s'appelle Piaf, La belle histoire d'amour. Il faut savoir qu'Edith, c'est une belle histoire d'amour.
Ouais.
Elle l'a toujours dit. Vous savez, elle a dit, on a dit ci, on a dit ça. Mais toi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai beaucoup appris. Et chaque fois que j'étais amoureuse, chaque fois, ça m'a apporté quelque chose. Et chaque fois, ça a été formidable. Ouais. Je dois beaucoup. Ce qu'on m'accuse de mes aventures, je leur dois beaucoup dans ma vie.
Ouais.
Donc elle était heureuse.
Mais alors ce spectacle, alors dites-nous un peu plus, La belle histoire d'amour que vous donnez au Pavillon Baltar, hein, il faut le préciser, près de Paris, le 24 mai. Donc c'est un récit.
C'est à 20h30 et ça raconte la vie d'Edith du début, de la rue, jusqu'à son décès, jusqu'à La belle histoire d'amour.
Voilà, et vous intervenez...
Je fais partie du fait que... Quand le film, par exemple, La Môme est sorti, ça m'a beaucoup agacé.
Pourquoi ?
Parce que...
Ça lui ressemblait pas ?
Non, parce que je trouvais que c'était faire ce que je fais aujourd'hui.
Ouais.
C'était parler de Edith, et quelque part, quand vous parlez de Piaf, souvent, c'est... On peut suspecter que c'est parce que c'est un support commercial.
Ouais.
Et puis, je me suis rendu compte que le film qui a été fait sur Edith... Il y a des milliers de gens, pour pas dire des centaines de milliers de gens, pour qui ça a réapporté la mémoire d'Edith. D'autant plus que l'interprète était tout à fait extraordinaire. Et si vous voulez, après, j'étais aussi très agacé par toutes ces chanteuses qui imitent Piaf. Bon. Et là aussi, ça me mettait en colère. Et c'est pareil, avec le temps et la prise de conscience, je dis, mais j'étais un imbécile. Parce qu'en fait, toutes ces personnes qui chantent Edith, qu'est-ce qu'elles font? Elle perpétue sa mémoire.
Ouais.
Elle apporte une part infime parfois.
Ouais.
Mais c'est à l'honneur, parce que si elle n'aimait pas Piaf, elle ne chanterait pas. Donc, en fait, elles aiment Piaf. Et moi, je pense que quand on m'a sollicité pour faire cette présence dans cette pièce qui s'appelait Piaf, La belle histoire d'amour, et qui s'appelle Piaf, La belle histoire d'amour...
Ouais.
C'est parce que ça m'a permis de dire que c'est une belle histoire d'amour. Piaf, c'est une belle histoire d'amour.
Et vous êtes sur scène avec donc effectivement Victoria Vassalatti qui incarne dans ce spectacle Edith Piaf.
C'est une ukrainienne. Alors, vous savez ce qu'elle, elle, on peut pas dire qu'elle imite.
Ouais.
Elle n'a jamais connu Edith Piaf.
Elle est comme ça naturellement.
Oui, elle a grandi à l'étranger, dans le fin fond de son Ukraine, où elle est devenue une vedette d'ailleurs, en Ukraine. Bon, elle a grandi avec Edith Piaf, mais elle n'imite pas parce que elle l'a jamais vue, elle ne sait pas. Et si vous voulez, c'est une enfant d'Edith Piaf, de l'œuvre d'Edith Piaf.
Et on va vous retrouver tous les deux donc dans un extrait de ce spectacle intitulé « Inconnu, excepté de Dieu ».
L'inscription d'une croix ancienne près d'un champ de blé merveilleux m'arrêta, je les ai grand-père.
Inconnu, excepté de Dieu.
Quel destin, à vrai dire immense, repose sous ce granit bleu, parmi les blés qui se balancent.
Inconnu.
Est-ce un enfant ou est-ce un homme pour qui la mort fut cet enjeu de mètres carrés de royaume?
Inconnu, excepté de Dieu.
A-t-il souffert? Fut-il coupable?
a-t-il fait pleurer de beaux yeux? Fut-il tragédie ou bien phare?
Inconnu, excepté de Didier.
A-t-il la pluie comme village et le vent d'hiver pour chef-lieu? Le soleil pour grand équipage.
Inconnu, excepté de Dieu.
J'ai pris par la voie charretière un chemin de gosse amoureux. J'étais inondé de lumière.
Étonnante, Victoria Vasalatti. On croirait vraiment que c'est Piaf.
C'est extraordinaire, parce que j'ai cru que c'était Piaf.
Oui, vous-même en l'écoutant, parce que évidemment vous aviez chanté cette chanson avec Edith Piaf.
Avec Edith Piaf, bien sûr.
Et c'est donc un extrait de votre spectacle, hein, je le redis, au pavillon de Baltard le 24 mai. Piaf, la belle histoire d'amour avec Victoria Vasalatti. Et vous-même, vous êtes aussi au piano dans cette soirée
Oui, oui, voilà. Je chante 3 ou 4 chansons.
3 ou 4 chansons, voilà, bah, ça va être une joie de vous retrouver sur scène, Charles Dumont. Les années Piaf... Évidemment, elles ont été un peu courtes par la force des choses. Vous dites toujours un autre aspect de sa personnalité qui vous a toujours frappé, c'est son intelligence.
Ce qu'on peut retenir, en tout cas moi, ce que j'ai pu retenir, c'est le côté exceptionnel du personnage. À savoir son courage, sa volonté, sa générosité, son amour du public, de son métier, sa patience... Et son intelligence.
Et son intelligence.
Il faut savoir que un de ses meilleurs amis, c'était Jean Cocteau, qui était quand même pas le dernier des hommes difficiles à approcher et qui était un intellectuel, s'il n'y en a jamais eu un. Et c'était son confident. Avec Cocteau, elle était amie intime. Je vois mal Jean Cocteau avoir une amie qui aurait été une imbécile.
Oui. Évidemment, oui. En tout cas, c'était sûrement pas le cas avec la grande Edith. Vous vous rappelez le jour de sa mort?
Par la force des choses, je l'ai appris en voiture. J'étais sur les quais, j'étais dans ma voiture quand j'ai appris qu'elle venait éventuellement. Moi, j'avais 6 mois avant, je vais dans un cabaret et je rencontre Brel.
Jacques Brel, oui, c'est ça, oui.
Bon, et en quittant Brel, on parle un petit peu, c'était dans une boîte de nuit. En quittant Brel, je dis à Jacques Brel, je dis, écoute, si tu sais, je vais voir Edith, un jour, il faut qu'on lui fasse une chanson.
Ensemble?
Oui.
Vous auriez fait la musique et Brel les paroles.
Voilà. Il me dit, mais viens. Viens. Je vais au bar, je vois Brel, on discute 5 minutes, il prend le carnet de commande du barman, il y prend son crayon, il écrit. Je peux pas vous dire, est-ce que ça dure un quart d'heure, une demi-heure? J'étais médusé, il me donne le carnet du barman, il me dit, tiens, voilà la chanson pour Edith, t'as plus qu'à faire la musique. Bon, alors, on a fait la musique dans un coin de la boîte de nuit, le corsaire borgne, et il m'a dit, oh, c'est super. J'ai appelé Edith pour lui dire, Edith, j'ai fait une chanson pour toi, je viens de te la montrer. Et elle m'a dit, non, je veux pas que tu me vois, je suis pas bien, mais chante-la-moi. Je la lui ai donc chantée au téléphone.
Et voilà.
Et elle m'a dit, je rentre à Paris et je l'enregistre. Malheureusement, elle est partie sans pouvoir l'enregistrer.
Et alors, il se trouve aussi que Edith Piaf, avant même de disparaître, d'ailleurs, vous avez un petit peu encouragé dans le fait de devenir vous-même l'interprète de vos chansons, puisqu'il y a un enregistrement dans lequel elle parraine en quelque sorte votre disque soliste.
Elle venait d'écrire un texte qui s'appelle Les Amants.
Ouais.
Je fais la musique, je la lui ramène, et je lui fais remarquer, j'ai dit, Edith, tu t'es vu, c'est un duo. Elle me dit, je te remercie, j'avais pas remarqué. Elle avait beaucoup d'humour. Ouais. Elle détestait les histoires salaces. Alors si vous vouliez vous fâcher avec, il fallait raconter des histoires grasses. Ça la mettait en colère.
Ah oui.
Mais quand c'était drôle, elle riait à pleine bouche,
avec
à pleine dent.
Ça reste distingué.
Mais il fallait que ce soit fin.
Fin.
Bon. Et là, bon, elle riait à ma réflexion que c'était un duo. Et je dis, avec qui tu vas la chanter? Elle me dit, eh ben avec toi. Ah, j'ai dit, non, j'ai dit, tu sais, je veux pas chanter. J'ai essayé, je veux pas chanter. Non, ça me plaît pas, c'est pas mon métier. Non, je suis content, là, je veux pas. Elle me dit, ah, tu veux pas chanter. Alors, je fais un texte et tu veux pas chanter avec moi. Non, elle me dit, écoute, je te raccompagne pas, hein. Tu sais où est la porte. Je suis pas parti. Je suis resté. On a enregistré la chanson qui s'appelait Les Amants, qui s'appelle toujours Les Amants, et que je chanterai.
Vous chantez plus qu'elle, d'ailleurs, hein.
Que je chanterai à Baltard. Oui, mais c'est elle qui a écrit le texte.
Oui, c'est ça.
Et la fin, c'est très, très, très subtil. Oui. Elle dit peu de mots, mais ils sont extrêmement importants. Donc, Les Amants, c'est devenu un immense succès. Et encore là, à Baltard, je chante encore aujourd'hui, avec Vazalaté, Les Amants.
Et c'est ça qui vous a remis sur la voie de la chanson, comme interprète.
Après, j'ai fait quelques tournées avec elle. Et là, j'ai attrapé le virus.
Et voilà.
Et 60 ans après, j'ai toujours le virus.
Et je propose alors, donc Charles Dumont, justement, qu'on va retrouver la voix d'Édith Piaf qui parle de vos chansons. Et puis, on va vous entendre tout de suite après. Alors, je pense que ça a été un grand succès. Déjà, au moment de la disparition d'Édith Piaf, à faire L'amour sans amour, 1963.
J'ai conseillé à Charles Dumont de chanter, non seulement pour qu'il présente ses propres chansons aux artistes, mais aussi pour que le public en profite. À celui qui m'a tout apporté dans mon nouveau tour de chant et dans ma résurrection, à celui qui restera pour moi comme le symbole de l'éveil en moi, de mon vrai moi, je me devais de lui offrir quelque chose. Personne mieux que lui ne chante ses chansons. Il y met tant de cœur, tant de sentiments, que cela paraît presque incroyable.
À faire l'amour sans amour, on tue son âme, on tue son cœur. À faire l'amour sans amour, la vie prend un goût de malheur. À faire l'amour sans amour, on perd son âme, on perd son cœur. À faire l'amour sans amour, de l'amour on perd le meilleur. Tant de caresses, tant de baisers, et tant de corps à corps pour rien, vous laissez bête à pleurer avec la peur du lendemain. À faire l'amour sans amour, on tue son âme, on perd son cœur. À faire l'amour sans amour, on oublie ce qu'est le bonheur. En se penchant sur son passé, on trouve au fond de sa mémoire l'époque où l'on voulait croire à l'amour fait de vérité. Mais il y a eu les déceptions qui font de l'autre un ennemi dont on profite sans raison ou pour seulement tuer l'ennui, l'ennui. À faire l'amour sans amour, on tue son âme, on tue son cœur. À faire l'amour sans amour, la vie prend un goût de malheur. À faire l'amour sans amour, on perd son âme, on perd son cœur. À faire l'amour sans amour, de l'amour on perd le meilleur. Mais ce qui fait qu'on recommence, c'est qu'on veut à tout prix trouver une petite part de chance à conjuguer le verbe aimer. Et c'est pour ça que sans amour, on fait l'amour avec l'espoir de rencontrer un jour l'amour dans le ciel perdu d'un regard. Dans le ciel perdu d'un regard.
Et là, il y a déjà tout votre style, Charles Dumont, de crooner à la française, chantant l'amour ou le désamour, d'ailleurs.
Ça me fait sourire parce que c'est 1963, je devais avoir 32 ans.
Eh oui, vous étiez un peu...
Et déjà moraliste.
Oui, et un peu pessimiste, là, hein, pour le coup.
Non, mais c'est très amusant. Et puis, c'est tellement drôle de se pencher sur son passé, sur des choses comme ça, qu'on a fait de tout son cœur. Et puis, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui... je le réécrirai pareil. Car là, j'ai fait les paroles et la musique.
Paroles et musique de Charles Dumont.
Oui, je suis sans excuse.
Non, mais moi, je l'aime beaucoup. Hein.
Oui, mais c'est pour dire, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, je réécrirai, si j'avais l'idée, cette chanson? Je sais pas. Le côté moralisateur, ça m'a un peu échappé avec le temps.
Il y a aussi quelqu'un qui a été très associé à vous pendant pas mal d'années, d'ailleurs, et qui est là avec vous, c'est Armand Midjani, le chef d'orchestre.
Ah oui, Midjani, bien sûr. Oui, c'était aussi un très bon orchestre. Mais c'était quand même pas un aigle.
Voilà,
mais c'était un très bel oiseau.
Un bel oiseau qui a été le partenaire de beaucoup de chanteurs de l'époque. Moi, en tout cas, il y a un style, il y a quand même un style Dumont qui est déjà là très présent, hein,
c'est prémonitoire.
La balade sur l'amour, avec un tempo plutôt un peu lent, presque slow, comme ça. Un style un peu crooner, je disais aussi, mais votre voix, vous l'avez trouvée comme ça, tout de suite? Vous l'avez travaillé?
C'est encore Piaf, c'est encore Edith.
Ouais.
Parce que quand j'ai dit que je voulais pas chanter, qu'elle a piqué sa colère, qu'elle m'a forcé de chanter, elle m'a dit, comment? Alors, quand tu me chantes des chansons, moi, tu me convaincs qu'il faut que je la chante, et puis tu veux pas la faire, tu veux pas chanter. Mais avec ta voix, tu dois chanter.
Voilà. Et donc, elle croyait à votre voix.
Elle croyait à ma voix, mais pas moi.
En tout cas, voilà, 1963, on fait encore un petit saut dans le temps, dans ces années 60, Charles Dumont, où vous avez non seulement fait des chansons comme compositeur et comme interprète, et même comme auteur, on l'a vu, mais vous avez aussi tout d'un coup fait des musiques pour la télévision et pour le cinéma. Et alors, il y a une chose que je trouve formidable, c'est que vous avez été quand même le musicien de deux films du très très grand Jacques Tati, à commencer par Trafic en 1971. Vous vous étiez rencontré comment? Dans le monde.
Le destin.
Vous savez,
on ne fait pas de carrière sans les rencontres.
Ouais.
C'est une carrière. J'ai connu des jeunes auteurs qui avaient un talent fou. Ils n'ont pas eu les rencontres.
Ouais.
C'est les rencontres qui vous poussent sur les rails du succès. Si vous ne les avez pas, c'est très difficile. Et là, c'est pareil. Vous vous rendez compte, c'était le fils de Jacques Tati était copain avec le fils d'un de mes amis.
Ah, voilà.
Et donc, j'ai dit à son fils, ah, mais ton père, je l'admire beaucoup, j'aimerais bien faire un jour une musique pour ton père. Il l'a dit à son père, en disant, le compositeur d'Edith Piaf, il aimerait bien te rencontrer. Et Jacques Tati a accepté qu'on se rencontre. Et il m'a dit, ah oui, mais moi, si vous voulez, voilà, je prépare un film.
Trafic.
Donc, ouais. Si vous voulez, je veux bien que vous fassiez la musique.
Ça s'est passé comment? On dit qu'il n'était pas très facile, non, Tati?
Enfin, il était très, très, très difficile, exigeant, oui, parce que là, j'ai dit, bon, je voudrais voir le film. Ouais. Et il m'a dit, ah, mais non. Non, mais là, vous vous trompez, parce que c'est pas ça du tout qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait un film. Alors, ça parle de voiture.
Oui.
Alors, vous allez me faire une musique, et quand il y en a une qui me plaira, s'il y en a une qui me plaît, je la prendrai.
Vous la mettrez dans le film, mais sans l'avoir vue.
Mais le film, non, j'avais pas vu. Alors j'en ai fait pas mal, et je commençais à désespérer d'ailleurs, parce que j'étais quand même très fier de faire une musique pour Jacques Tati. Et puis un jour, j'ai montré un truc, comme ça au piano. Ah, il dit, c'est exactement ce que je... Boum! Et effectivement, après on l'a fait orchestrer avec Bernard Gérard, encore un grand chef d'orchestre.
Ouais.
Un des plus grands, qui est parti un peu trop tôt. Enfin, bref, Bernard Gérard a fait des arrangements. Et Tati, alors si vous voulez une dernière anecdote, parce qu'elle est quand même pas mal, celle. Ça concerne Tati, mais elle est super pour son caractère. Donc c'était Jacques Tati.
Ouais.
Le monument de Jacques Tati. Et il prend une chanson. Alors je vais voir un grand éditeur de l'époque. Oui, alors on prend un orchestre... 35 musiciens, Bernard Gérard fait une orchestration pour 35 musiciens, on fait ça dans un studio, un grand studio, et bon, vient le jour où on va montrer la musique que Bernard Gérard a écrite sur mes thèmes à Jacques Tati. Et Jacques Tati arrive, c'était 10h du matin dans le studio, il dit, faites-moi passer le truc, il voit tous les musiciens là, Il commence à se contracter. Et puis on met en route. Il dit, mais arrêtez-moi ça. Arrêtez ça, tout de suite. Il dit, mais vous avez jamais vu mes films. Vous avez... vous foutez de moi. Mais enfin, il prend une colère. Il engueule tout le monde. Hein. Il commence d'abord par évincer les musiciens les uns après les autres. les cuivres d'abord, puis les bois 20. Il en écarte tout de suite 15. Il en reste une dizaine. Et pour la dizaine, il s'adresse à Bernard Gérard, lui dit, oui, mais alors, c'est plus mon travail. Alors il dit à Bernard Gérard, monsieur, vous avez jamais vu mes films, vous vous êtes trompé. Bernard Gérard dit, monsieur, moi je vous dois rien, au revoir monsieur. Et Bernard Gérard, il s'en va.
Ah ouais?
Bon, alors, j'en vois quelqu'un qui court après Bernard Gérard pour le ramener. Et Tati, il se calme un tout petit peu. Il garde 5 musiciens. Et là, il se radoucit avec Bernard Gérard. Et il dit, écoutez, je vais voir ça avec Charles, et puis il va s'en occuper. Voyez ça avec lui, et puis revoyez mes filles. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Pas plus tard, il dit, parce que après, j'ai les délais qui sont là. Et donc, Bernard Gérard a trouvé la
solution.
La solution, parce que c'était un grand musicien. Et il a fait une orchestration merveilleuse, qu'encore aujourd'hui, on me réclame pour certains films.
Trafic, le film de Jacques Tati, musique de mon invité Charles Dumont, que je suis tellement heureux de recevoir ce matin. On ne pourra pas tout dire, mais bon, on va continuer dans de prochaines émissions, j'espère. Dans les années 70, donc après Trafic, vous avez aussi fait beaucoup de scènes. Et il y a un endroit qui a été très important, je crois, dans votre vie, peut-être lié aussi à la personnalité de son directeur, ça a été l'Olympia, à partir notamment de 1976.
Oui, j'ai dû faire dans ma vie une douzaine d'Olympia. Ouais. D'abord avec Bruno, ouais. Cocatrix, après avec
Jean-Michel Boris.
Ouais. Après, le dernier directeur, Arnaud Delbar, oui. J'ai eu la chance d'avoir de merveilleux directeurs. Oui. Les trois que je viens de citer ont été merveilleux. Vraiment, ils m'ont ouvert les portes, ils m'ont facilité la vie, ils m'ont fait plusieurs récitals.
Mais vous êtes heureux, je veux dire, sur une grande scène, devant un immense public, voilà, tout seul, avec votre piano ou avec un orchestre. C'est quand même à chaque fois une espèce d'aventure.
Je suis terrorisé.
Bon, d'accord.
Je suis terrorisé comme le premier jour.
Oui.
Comme le premier jour. Alors, grâce à la réputation, le public maintenant arrive un petit peu plus conquis qu'avant.
Ouais.
Quand vous débutez, il faut convaincre à
100%. Ouais.
Après, c'est très difficile aussi parce qu'il ne faut pas qu'il soit déçu.
C'est ça, voilà.
Alors, c'est aussi très difficile. Mais il vous accueille mieux.
Ouais.
Vous êtes mieux accueilli. Alors, après la troisième ou quatrième chanson, vous commencez à récupérer de la confiance par la chaleur, tout ça.
Vous préférez vos enregistrements live ou vos enregistrements studio?
J'ai beaucoup aimé le studio parce que on corrige très facilement au studio.
Oui, c'est plus parfait dans un sens.
Alors que live, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne pourrais plus faire du direct parce que ça a tellement changé les enregistrements. Aujourd'hui, on ne pardonne plus quoi que ce soit. Quand on écoute un disque, il n'y a pas de place pour de la faiblesse.
Ouais.
Il faut que ce soit fort, parfait. Et un live parfait,
ça n'existe presque pas.
C'est pas facile.
On a évoqué Charles Dumont, évidemment, longuement Édith Piaf, c'était bien naturel, mais il y a une autre femme qui, dans votre carrière, a joué un rôle important, qui s'appelait Sophie Macno.
Oh,
est-ce que vous pouvez nous dire qui elle était? Parce que les auditeurs ne savent pas forcément tous.
Sophie Macno, c'était une jeune femme qui avait un papa chinois, une maman qui était directrice d'école, qui avait un bagage intellectuel remarquable, qui était à une époque la secrétaire de Barbara, et qui écrivait des chansons pour Barbara. Et je l'ai rencontrée tout à fait par hasard. Merci le hasard, merci le destin.
Encore.
Encore.
Ouais.
Je l'ai rencontrée tout à fait par hasard, place Wilson, à Paris. Et elle me dit, ah, bonjour Charles Dumont, qu'est-ce que vous devenez? Moi j'ai dit, écoutez, rien, Piaf était parti, j'étais dans des périodes... Elle me dit, vous savez, j'ai fait une chanson, là, si vous vouliez me faire de la musique, ça me plaît beaucoup. Elle me donnait le texte d'une chanson qui s'appelait « Ta cigarette après l'amour ». Cette chanson, elle est devenue un succès comme Lazare, elle est ressuscitée. Elle est sortie du sol des boîtes de nuit. Et c'est grâce d'ailleurs à une journaliste de Radio France qui l'a beaucoup programmée. Bon, cette chanson est devenue un succès et elle m'a mis le pied à l'étrier.
Ouais.
Et toute ma carrière, jusqu'à aujourd'hui, a été émaillée pratiquement à 90% par les textes qui ont été écrits par Sophie Macno.
Voilà.
De son vrai nom, elle s'appelait Françoise Lowe, mais elle aimait bien Macno pour des raisons qui lui étaient personnelles. Et que ce soit Macno ou Françoise Lowe, en tout cas... Cet être qui m'a accompagné toute ma vie, jusqu'au fait où elle m'a quitté, c'est pas gentil, elle m'a laissé un petit peu tomber, là.
Ouais.
Mais je vais aller retrouver bientôt.
Non, pas trop vite.
Grâce à elle, j'ai fait une carrière merveilleuse parce que ça a été non seulement ma parolière qui m'a fait des textes de chansons, mais elle m'a appris beaucoup de choses.
Ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, c'est chaque fois la même chose. Déjà tu penses à autre chose. Autre cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, il va mourir avec l'aurore. Cet amour-là qui s'évapore en fumée bleue qui s'insinue. La nuit retire ses marées. Je n'ai plus rien à déclarer. Dans le jour, j'entre les mains nues. Ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour.
mon amour. Déjà tu reprends ton visage, tes habitudes et ton âme. Et ton âme, ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-vous. Mon amour, je ne pourrai jamais me faire à ce mouvement de la terre qui vous rappelle. Si loin que l'on s'abandonne, ni l'un ni l'autre ne se donne. On se reprend avec l'aurore. Ta cigarette après l'amour s'est consumée à contre-amour.
Vous êtes un mélancolique dans la vie, Charles Dumont ?
Oui.
Oui, un oui. peu quand même.
Oui, oui, oui. Mais j'aime beaucoup rire aussi.
Oui, j'ai l'impression, hein, c'est un mélange.
Oui, mais si vous voulez, c'est... je ris pour ne pas pleurer.
Ah, voilà. Ça. En tout cas, voilà, une belle chanson avec encore Bernard Gérard, vous me disiez, qui était votre complice là dans cet enregistrement.
Oui, oui, je vous dis, il m'a fait beaucoup d'enregistrements. Puis après ça a été Jean-Claude. D'ailleurs, Jean-Claude a beaucoup travaillé avec Bernard Gérard.
Mais vous aimez bien vous accompagner vous-même au piano aussi.
Ah, mais je ne sais pas faire autrement.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est-à-dire que c'est à la fois mon
but. C'est pourtant pas facile, hein. Moi qui suis un peu pianiste, j'essaye.
Mais moi j'ai commencé comme ça alors.
Oui, voilà, c'est ça, depuis toujours.
J'y dois tout.
Ouais.
Mes misères et mes triomphes.
Un jour, vous avez laissé tomber le Steinway que vous aviez acquis pour retrouver votre vieux Pleyel.
Ça, si vous voulez, c'est une anecdote qui fera peut-être rire nos auditeurs, et je serais ravi. C'est que donc, c'était une période faste, c'était l'époque Tati, l'époque où j'avais fait beaucoup de choses qui marchaient très très bien. Puis j'avais le catalogue Piaf qui me nourrissait très très bien.
Encore ?
Oui. Elle est encore très vivante, très très vivante.
Et donc le piano.
Donc là, c'était pas une époque faste. Ça existe, ça dans tous les métiers, ça existe. C'était une époque faste. Donc j'avais le piano d'origine que j'ai acheté quand j'avais 15 ans. Mes parents m'avaient acheté. Bon, je l'ai relégué à la campagne et j'ai acheté un Steinway. Ouais. Ah, il était beau, vous n'avez pas idée quoi, il était beau. Il était magnifique, il était noir. Et puis quand on levait le capot, il était en or. Ouais. On ouvrait une boîte à merveille. Il a un double échappement. Un chef-d'œuvre. Je passais devant, je ne m'arrêtais pas souvent. Mais chaque fois que je m'arrêtais, je le touchais un peu, comme ça. Mais on n'avait rien à se dire.
C'est ça. C'est joliment résumé.
Mais on n'avait rien à se dire. Mais alors lui, c'était pas son truc et il n'était pas le mien du tout. Ça n'a pas duré longtemps. Je l'ai payé une fortune. Hein.
Ouais.
Je l'ai revendu la moitié du prix que je l'ai acheté. J'ai fait remonter la campagne mon vieux piano.
Voilà.
Et je suis retombé dans le bonheur de mon vieux piano,
voilà.
Qui, pour me faire de la peine, avait une fêlure de la table d'harmonie pour me punir de la remise à l'exil. Je l'ai fait refaire à neuf et on s'entend depuis et je crois que jamais plus je le remplacerai. J'ai gardé mon vieux piano, il a fait toutes mes chansons.
C'est une très jolie anecdote. Parce que
et le Steinway, vous voyez, il est revenu à son rôle de réservé aux concertistes.
Voilà, comment le son Pleyel, oui, mais il y a aussi une magie, une finesse, quelque
Pleyel,
chose.
Hein, voilà. C'est une femme.
Les femmes.
C'est une piano.
Voilà. Les femmes et Charles Dumont, évidemment, c'est un thème inépuisable. D'ailleurs, justement, dans le disque que vous venez d'enregistrer et qui, je crois, va paraître dans quelques mois, il y a un titre qui est aussi le titre de l'album qui s'appelle L'âme sœur. C'est dire.
Oui, c'est une chanson que d'ailleurs, c'était le départ sur de Pierre-André Doucet, un monsieur avec qui j'ai fait une chanson donc il y a très très longtemps, et je l'ai redécouvert tout à fait par hasard, une fois de plus, et j'ai eu très envie de refaire cette chanson, et cette chanson a décliné une envie d'un nouveau disque, et je le dis, vous savez, les chansons c'est un petit peu comme les enfants, le dernier, c'est souvent le plus beau.
Oui, bien sûr.
Mais là, avec toute ma conscience professionnelle, je crois franchement que c'est de loin, de loin, de loin mon meilleur disque de tous les disques. Ah oui.
Ah.
Ah oui, franchement. Parce que même moi, je le trouve bon. Je peux vous dire une chose, que le trois quarts du temps, je me casse la tête à faire un disque, ça prend beaucoup de temps. Et quand je l'écoute, je dis oui, mais j'aurais dû faire ça comme ça, puis j'aurais dû faire ça comme ça. Et celui-là, je n'ai rien à lui reprocher. J'en suis même inquiet. Et malheureusement, les quelques personnes qui l'ont écouté partagent cet avis. Ce n'est pas beaucoup pour l'instant, c'est 5 ou 6 personnes. Et les 6 personnes m'ont dit, mais écoute, c'est ton meilleur disque.
Écoutez, en tout cas, on est heureux puisqu'on l'a en avant-première hein, de pouvoir écouter justement ce titre, L'âme sœur. Ça sort seulement dans quelques mois.
Verrez, c'est très différent de du monde habituel.
Eh ben, on l'écoute.
Il est encore plus personnel que les autres.
L'âme sœur connaît et qui vous aime. L'âme sœur, une part de vous-même qu'on attend, que toujours on appelle l'âme sœur. Dis-moi, existe-t-elle? L'âme sœur, dissipant tous les doutes, vous tendant la main sur votre route, toujours là, silencieuse et fidèle, l'âme sœur, dis-moi, existe-t-elle? Existe-t-elle? J'ai connu des gens qui lui ressemblent, et mon cœur les a aimés. J'ai connu des gens qui lui ressemblent, mais je ne l'ai jamais rencontré. L'âme sœur, tissée de même fibre, l'âme sœur, qui vibre quand on vibre, et qui pleure quand votre cœur chancelle. L'âme sœur, dis-moi, existe-t-elle? L'âme sœur qu'on aime et qui vous aime. L'âme sœur, une part de vous-même qu'on attend, que toujours on appelle. L'âme sœur, dis-moi, existe-t-elle? Dis-le-moi, l'âme sœur, est-ce toi?
L'âme sœur, le nouvel album de Charles Dumont qui est avec moi ce matin. Merci d'être venu d'abord, d'être venu avec ce disque. Et en nous annonçant aussi cette tournée qui va vous conduire, je crois, après l'été, dans votre sud-ouest natal.
Oui, oui, oui. Ça me plaît bien de revenir chanter dans le sud-ouest.
Vous êtes attaché à cette région
qui
vous
Oui, c'est mon enfance.
Vous avez même gardé un peu l'accent, hein.
Ça, il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire.
Non. Mais je ne regrette rien.
Vous qui êtes un Parisien néanmoins de longue date, je crois que vous habitez le même appartement dans le quartier de l'Odéon depuis...
60 ans.
60 ans. Mmh. Voilà.
Depuis, je ne regrette rien.
Voilà, l'appartement qui a vu aussi vos changements de piano et où vous continuez aujourd'hui à vivre, à travailler et à venir aussi nous raconter des histoires. Vous êtes, on peut dire aujourd'hui, vous êtes un monument de la chanson française. Ça vous fait quoi d'être un monument, Charles
Dumont ? Non, j'ai la chance d'avoir eu de la chance. Voilà. Et vous savez, c'est très important.
Ouais.
Et j'ai aussi eu de la chance aujourd'hui de faire une émission comme malheureusement on peut pas en faire beaucoup, c'est pas pour flagorner, c'est pas le style de la Maison du Mont, mais c'est surtout que on a tellement rarement la possibilité de dire le fond de son cœur comme j'ai pu le faire aujourd'hui.
Bah écoutez, merci beaucoup encore Charles Dumont d'avoir été avec nous. J'espère que vous revenez bientôt, mais on va se quitter avec une chanson presque joyeuse. Finalement, oui, vous en avez fait aussi, hein.
Que Piaf a refusé.
Elle aussi.
Oui, elle l'a refusé, mais elle l'a chanté après.
Elle l'a chanté après. Voilà, c'était Les Flonflons du Bal, c'était oui, un de vos succès pour Edith Piaf. Merci encore Charles Dumont et j'espère à très bientôt.
Et l'accordéon secoue ma chanson. Les flonflons du bal donnent un festival en dessous de chez moi. Tous les soirs du mois, j'ai beau tourner ma clé à triple tour, ils sont toujours mêlés à mes histoires d'amour. Les flonflons du bal, le long des murs sales, montent par bouffées jusqu'à mon grenier. Les flonflons du bal, grand coup de cymbale et d'accordéon secoue ma chanson. J'en ai du chagrin, c'est le même refrain. Qu'on soit presque mort, il joue aussi fort. J'ai bien failli mourir le jour où t'es parti, mais pour les attendrir, mon cœur n'a pas suffi. Les flonflons du bal, ça leur est égal. Vous pouvez pleurer, eux ils font danser.
Les flonflons du bal, Edith Piaf, bien sûr, dans cette chanson de Charles Dumont qui était ce matin mon invité. Charles Dumont, vous pouvez le retrouver vendredi prochain, le 24 mai, au pavillon Baltard, près de Paris. Donc, dans Piaf, la belle histoire d'amour, il sera sur scène avec Victoria Vasalatti. Et puis également, il sera donc en concert à l'automne dans le sud-ouest, qui sera aussi le moment de la parution de son nouveau disque intitulé L'âme sœur. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site charlesdumont.free.fr.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Voilà, et pour nous terminer, bien, pour terminer l'émission, pardon, quelques petits pas de deux, à commencer par celui de Gisèle.
Thank you.
Ah, vous savez combien je l'aime, la musique de ballet. C'était une des variations de Gisèle par l'Orchestre Symphonique de Londres, sous la direction de Michael Tilson Thomas. Et puis j'ai ressorti pour vous un enregistrement de ce chanteur que j'évoquais la semaine dernière, Claude De Vos, merveilleux ténor léger à la française, cette fois-ci donc dans un air d'Offenbach, qu'on chante beaucoup, paraît-il, dans le quartier du Marais.
D'abord, ô vile multitude, sachez-le bien, je n'ai pas l'habitude d'être reçu sur un rythme plaintif. Vous auriez dû chanter un cœur à l'air tibif. Le règne de Vénus est un règne joyeux.
Le règne de Vénus est un règne joyeux.
Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux.
Il est gay, soyez gay, il le faut, il le veut.
Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux.
Il est gay, soyez gay, il le faut, il le veut.
La la et tout, la 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 la. 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 Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La 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 la.
Claude De Vos dans cet extrait de La Belle Hélène sous la direction de Jules Gressier. Et puis nous allons terminer cette émission avec un petit peu de musique légère de ces trésors que j'ai retrouvés à la discothèque. C'est une composition de Pierre Devevet intitulée, ça tombe bien, Papotage à Cannes.
Thank you.
Papotage à Cannes, une conversation musicale de Pierre Devevet par l'Orchestre de musique légère de l'ORTF sous la direction de Raymond Chevreux. C'est un extrait de la vieille collection de vinyles Musicolor qu'on conserve à la discothèque centrale de Radio France. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Cindy Le Grumelec, avec Jean-Paul Lafavergès, réalisation Christine Amado. Samedi prochain, spécial Albert Roussel à l'occasion du testament de la tante Caroline. Et bien sûr, pour tous ceux qui viendront, je vous attends donc mardi soir à 20h au Grand Studio 104 de la Maison de Radio France. Dernière place à saisir sur le site maisondelaradio.fr. Bon week-end à tous en attendant. Et vous retrouvez maintenant Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.